Bonjour à chacun. C'est avec plein d'émotions que je vous souhaite la bienvenue ce matin. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Je salue aussi toute l'Église connectée. Ce matin, j'ai envie de dire que nos vies chantent plus fort que nos mots. Ce matin, quelles que soient nos circonstances, nous voulons bâtir notre vie sur Dieu.
Digne de tous les chants que je chanterai. Chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus. tu es le seul m'offrant le pardon, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi, car tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que
la pierre angulaire, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus, nous t'aimons. Ils vont ensemble la voir. Alléluia. Ils vont. Tu es grand, Jésus. Plein d'amour. Tu es fidèle. Démontrez ton amour. Comptons sur toi. Excellent.
Je veux t'aider.
Je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paroles, mon sauveur. Toi seul. Éternité, toi seul es digne, oui, toi seul es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul.
Seul et digne. Comment ça peut se traduire concrètement ce matin? Imaginez, c'est réel, nous croyons que Dieu est esprit, Dieu est présent, là où deux ou trois s'accordent, là où deux ou trois cherchent sa face, et même quand on ne cherche pas sa face, Dieu est là. Et imaginons que ce matin, Dieu est présent, qu'est-ce qu'on lui apporterait? Toi seul et digne de recevoir. À quoi va ressembler votre louange ce matin? Qu'est-ce que vous allez y mettre comme mot, comme action? Je voudrais nous donner juste quelques secondes en recueillement intérieur pour réfléchir à dire, Seigneur, c'est toi qui es digne, alors je t'apporte, et vous citez quelque chose que vous apportez à Dieu. Ça peut être merci pour ce qui s'est passé cette semaine, Ça peut être merci parce que dans l'année, tu as ouvert des portes pour moi. Merci parce que tu m'as pointé le doigt sur quelque chose qui avait besoin de changer et tu m'aides à changer. Et que cette expression de louange se traduise en quelque chose de très concret pour vous, pour votre parcours de vie, pour moi. Et c'est ainsi que ça donne encore un peu plus corps à notre louange. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir. Et je dépose à tes pieds. C'est comme si j'ai dans mon sac plusieurs choses qui composent ma vie. Et sans peur, sans honte, je dépose à tes pieds. Voilà, Seigneur. Alors donnons-nous juste un instant maintenant, en recueillement pour celles et ceux qui le veulent, recueillement intérieur de dire, oui Seigneur, moi je t'apporte. Je t'apporte ce remerciement. Je t'apporte cette prière de dépendance. J'ai besoin de toi. Je t'apporte cette prière où je te demande pardon. Je t'apporte ma repentance. Je t'apporte ce projet. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je t'apporte mon obéissance. Oui, Seigneur, toi seul es digne. À la fin, une seule personne est digne de recevoir la louange de nous, les êtres humains. Ce respect, cet acte d'adoration qui confesse Jésus, tu es mon Dieu. Mon sauveur, celui qui me relève, celui à qui je veux tout donner. Seigneur, merci de bénir l'Église, nos amis rassemblés, l'Église connectée en ligne. Que cette célébration participe à élever une seule personne, à glorifier, à adorer, à louer une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Merci d'accompagner chacun, merci de parler particulièrement à chacun au travers de cette célébration spéciale. Que tu inspires. Nous croyons que tu es un Dieu qui appelle tes enfants à être eux-mêmes des sources de bénédiction autour d'eux, là où tu les as placés. Alors merci Seigneur pour ce temps d'adoration par le chant, par la prière et pour tout ce qu'on va encore vivre ce matin. À toi toute la gloire Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Bienvenue à l'église de l'Épi. Nous sommes heureux d'être rassemblés, connectés aussi avec vous qui êtes en ligne. L'église de l'Épi, c'est une église qui vit des temps de célébration comme ce matin au travers du chant, de la louange. Mais c'est aussi une église qui a une vie en semaine, qui a même une vie un peu différente ce matin avec différents groupes d'âge qui se rassemblent, à qui on communique aussi pour leur réalité de vie à eux, l'évangile, tous nos enfants, tous nos adolescents, tous nos préadolescents. Il y a aussi des rencontres jeunes, adultes qui ont lieu le samedi. L'Épi, c'est une église où il y a un espace pour toi, pour apprendre à connaître Jésus, pour apprendre à grandir avec Christ, pour apprendre à découvrir la Bible, redécouvrir la Bible, et une fois que tu as redécouvert la Bible, que tu puisses encore une nouvelle fois redécouvrir la Bible, et dès que tu auras redécouvert la Bible, eh bien tu redécouvriras encore la Bible, cette nourriture pour l'âme, cette nourriture qui encourage. L'église de l'Épi est heureuse d'avoir un partenariat depuis plusieurs années maintenant avec une association culturelle qui s'appelle Enjeu. Enjeu vient en aide à des personnes qui traversent des séquences de la vie difficiles, des moments compliqués, par le biais des colis alimentaires, par le biais d'accueil aussi avec un vestiboutique, par le biais de la maraude. Et pour soutenir l'association culturelle Enjeu, nous organisons avec elle un partenariat avec notamment des ventes. Et là, ce sera une vente des aiguilles solidaires, des objets faits main. Cette vente aura lieu le 28 avril 2024. Et à cette occasion, tout le profit sera donné à l'association Enjeu pour accompagner, aider enfants, ados, jeunes, familles démunies à pouvoir vivre de manière digne dans cette société qui parfois est bien compliquée à vivre. Donc n'hésitez pas le dimanche 28 avril à pouvoir ramener avec vous un petit objet fait main à offrir à quelqu'un et en même temps vous bénirez des familles. Aujourd'hui, c'est une célébration spéciale. Nous l'appelons la célébration de l'espoir parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui donne de l'espoir. L'espoir à chacun de nous, l'espoir au près comme l'espoir au loin. Et vous savez comment il le fait ? Il le fait avec chacune et chacun d'entre nous. Et cette célébration, le but de cette célébration, c'est de pouvoir rendre visible et encourager les disciples de Jésus qui ont des appels sur leur cœur. Et sommes heureux d'être une église avec une diversité, on le dit souvent, diversité culturelle, mais aussi diversité d'appels. Et nous allons découvrir à quoi peut ressembler la mission quand on s'appelle l'église de l'Épi. Cette célébration va se faire en différentes étapes. Vous allez dans un instant découvrir des vidéos qui vont vous présenter des chrétiens de l'Épi, des membres de l'Épi qui sont investis dans des projets, dans des visions, dans des missions. Et vous allez aussi entendre un message qui prendra racine dans la Bible et qui va venir interpeller notre église locale sur la justice sociale. Nous aurons aussi une présentation de la vision missionnaire à l'Épi. Comment, en tant qu'église de l'Épi, nous voulons valoriser, encourager, rendre visible l'implication de chacune et chacun d'entre vous qui vivez l'Épi avec nous, là où Dieu vous a placé. Comment on peut se soutenir, s'encourager les uns les autres. Donc il y a ce moment-là, et couplé à ça, partez pas tout de suite parce qu'il y a aussi un moment dédié, c'est pour ça qu'on veut vivre ce temps de célébration et inclure un moment où il y a des stands, plusieurs stands dans le hall vous attendent avec ces chrétiens, ces disciples de Jésus passionnés, engagés auprès comme au loin, et ça fera partie de notre célébration que d'aller rencontrer ces stands, d'aller visiter ces disciples de Jésus qui sont engagés, investis. Et ma prière personnelle, c'est que Seigneur, tu puisses encore susciter plein d'autres personnes pour être engagées dans des ONG, dans des associations, là où Dieu le désire pour vous. On va démarrer en découvrant trois personnes de l'Épi engagées, et derrière, on va écouter un message de l'Évangile.
Voilà, donc nous, c'est Marie-Christine et Florian Carayol.
Bonjour. Alors nous, on fréquente l'Épi depuis une vingtaine d'années. Et donc aujourd'hui, on voudrait vous parler du nid des enfants à Bobo Dioulasso au Burkina Faso.
Donc en fait, on a eu l'occasion de rencontrer cette œuvre vraiment magnifique il y a 8 ans. Et en fait, on est vraiment tombé, le coup de foudre, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils accueillent des enfants vulnérables, ils s'en occupent, ils les soignent. Il leur permet d'avoir une vie digne, et voilà, il y a une vingtaine d'enfants accueillis donc en orphelinat, sur place en interne, et il y a près de 120 enfants accueillis en fait dans des familles d'accueil. Ils reçoivent de quoi les nourrir, et aussi un accompagnement mensuel.
C'est aussi des gens qu'on voudrait soutenir parce qu'ils ont des moyens extrêmement limités et ils arrivent à faire des choses tout à fait incroyables.
De temps en temps, on fait des petites soirées, il y a un concert aussi au mois de juin pour cette œuvre. Et puis, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos talents pour soutenir? Alors, on a écrit des histoires, des poèmes, et c'est un livre qui permet de soutenir cette œuvre. 100% des bénéfices sont reversés au Nid des Enfants, donc vous pourrez venir voir aussi à notre stand et puis nous demander plus d'infos sur le Nid des Enfants.
Voilà, bonjour, je suis Dominique Condello, je suis retraité, je suis donc non-voyant. Et je suis à l'Épi donc depuis 1978. À un moment donné, j'ai eu à cœur, vu mon handicap, de parler de la mission évangélique Braille, qui donc a son siège en Suisse et qui a pour but de produire et ensuite de diffuser la Bible en Braille et sur CD. Pour les personnes malvoyantes et aveugles, donc pour les pays francophones. Depuis 2021, une association française s'est créée et elle a pour but aussi de tisser un lien entre les différentes personnes aveugles françaises dans les différentes régions de France, et on essaie de donner l'information à toutes les personnes aveugles et malvoyantes qui sont intéressées par la Bible et l'Évangile. Si vous avez d'autres renseignements à demander sur le fonctionnement de l'association, vous pourrez nous rejoindre sur le stand.
Bonjour, je m'appelle Pierre Yérémian, je suis à l'Épi depuis 51 ans et responsable depuis une vingtaine d'années de l'ONG Interdéveloppement et Solidarité, qui travaille actuellement essentiellement en RDC, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement à l'est de cet immense pays, près de la frontière du Rwanda et du Burundi. La situation sur place est dramatique à cause de dizaines et de dizaines de groupes armés qui sèment la terreur dans cette région. Des millions de personnes déplacées, des millions d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et des violences en grand nombre. IDS, concrètement, en 2024, a mis en place 4 ateliers coupe couture pour les femmes vulnérables ainsi que 3 groupes d'alphabétisation pour les orphelins. Il s'agit de 204 vulnérables qui sont actuellement pris en charge par l'association. Bienvenue à notre stand d'information et je vous en dirai plus. Au revoir.
Est-ce qu'on est heureux d'être dans une église où les dons et les talents des uns et des autres sont mis en valeur pour rejoindre la mission, pour atteindre les gens? Yes? Il y en a quelques-uns, merci pour les deux devant là. Mes amis, on ne peut pas changer tout, mais on peut tous changer quelque chose. Et Jésus a décidé de se servir de chacun d'entre nous, nous équiper de dons et de talents pour pouvoir faire une différence dans cette société, pour incarner ses pieds et ses mains en action. Et c'est l'objectif de cette célébration de ce matin. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Quelle justice sociale pour notre église locale ?» Quelle justice sociale pour notre église locale ? On vous l'a rappelé lors de notre assemblée générale qu'aujourd'hui prendrait place une célébration de l'espoir. Et l'objectif d'une matinée comme celle-ci, c'est de pouvoir mettre en lumière ce qui se fait au sein de notre église locale pour rejoindre cette justice sociale, mais aussi de mettre en valeur des frères, des sœurs, des porteurs de projets, des gens engagés dans des ONG, dans des associations, pour pouvoir faire la différence et qui sont disciples de Jésus. Parce qu'à l'EPI, on a compris que c'est pas l'Église qui fait tout, mais que, en parlant d'Église locale, mais c'est chacun d'entre nous qui pouvons faire une différence quelque part. Juste après ce message, Anita, Mathieu l'a rappelé, va nous présenter la vision missionnaire et comment ça va se traduire pour nous, au niveau de l'EPI, dans les prochains mois et prochaines années. Parce qu'il y a une loi qui est arrivée, la loi LCRPR, loi confortant le respect des principes républicains, qui est venu nous inviter à bien faire la différence entre ce qui est de l'association cultuelle et de l'association culturelle. Nous, on n'a pas vu ça comme une contrainte, mais on a vu ça comme une opportunité. Une opportunité de pouvoir préciser, de pouvoir dessiner, clarifier, délimiter le champ d'appel concernant la mission à l'EPI, afin de pouvoir poursuivre cet appel d'annonce de l'évangile à l'international, mais aussi de travailler à la restauration de la dignité humaine. Et c'est bien de ce sujet-là qu'on va traiter ce matin, et en particulier celui de la pauvreté. Car oui, je crois qu'un des mandats de notre Église est d'incarner les pieds et les mains de Jésus en action dans un monde en souffrance. On va se pencher ce matin sur 2 versets de l'Ancien Testament qui vont conduire toute notre réflexion et tout notre échange. Ce passage se trouve dans le livre du Lévitique. C'est un livre qui contient toutes sortes, toute une liste de lois et de concepts de pureté pour le peuple de Dieu en lien avec ce Dieu saint, avec ce Dieu pur qui attend quelque chose de son peuple. Certaines de ces choses, et dans ce passage, sont des applications pratiques pour une conduite, des actes qui vont refléter le cœur de Dieu au sein de la société. Sont des valeurs que Dieu voulait voir incarnées par son peuple appelé à faire la différence et refléter Christ dans ce monde. Et l'une d'entre elles, l'une de ces valeurs, c'est un appel particulier pour lutter contre la pauvreté et restaurer la dignité humaine. L'appel à lutter contre la pauvreté, à restaurer la dignité humaine, c'est un appel sérieux sur le cœur de Dieu. Voilà pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament ne vont pas cesser de rappeler au peuple israélite non seulement de revenir à Dieu, mais de prendre souci du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Et c'est parce qu'ils n'ont pas accompli ces choses-là qu'ils ont été envoyés en captivité pour le royaume du Nord, en Assyrie, et pour le royaume de Juda, ensuite en Babylone. En lisant ces choses dans la Bible, on doit se laisser interpeller. Il y a quelque chose de sérieux et nous sommes invités à considérer ces passages qui vont nous inviter à rechercher la justice sociale comme celui qu'on va lire maintenant. On commence la lecture, Lévitique 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ici, il est parlé de ce qu'on appelle la loi du glanage, qui consistait lors de la saison des moissons pour les propriétaires de terre de ne pas tout prendre jusqu'aux limites. C'est-à-dire qu'ils étaient invités à laisser des olives sur les oliviers, de laisser du raisin sur certains pieds de vigne et de ne pas glaner tout le blé qui pouvait être pris. Au travers de cette loi du glanage, ce matin, on va regarder quelle est la définition pour Dieu de ce qu'est la pauvreté, mais aussi de regarder à qu'est-ce qui bouillonne sur le cœur de Dieu en faveur des pauvres et comment nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons trouver des moyens de répondre à cette mission et de lutter contre la pauvreté. Alors le premier point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est qu'est-ce que la pauvreté ? Bien souvent, quand on va poser cette question à des Occidentaux comme nous, pour nous, la pauvreté, c'est de ne pas avoir d'argent et pas de pas avoir de matériel. Souvent, c'est ça. C'est « j'ai pas d'argent pour faire ceci, j'ai pas d'argent pour faire cela ». Et il est intéressant de se poser la question de « qu'est-ce que pensent des gens qui sont plus pauvres de la pauvreté ?» Parce que nous, on vient là avec nos grands principes. Les gens ont besoin d'argent, je vais leur donner de l'argent et le problème sera réglé. Pourtant, on va regarder à ce que des pauvres disent, et j'ai pris deux exemples de témoignages, un qui vient de Moldavie et un autre qui vient du Cameroun. Et c'est des personnes qui sont en situation précaire qui ont dit la chose suivante. Alors le premier, pour la Moldavie, il dit « Pour une personne pauvre, la vie s'avère cauchemardesque à cause de la maladie, l'humiliation et la honte. Nous sommes infirmes, nous avons peur de tout, nous dépendons de tout le monde. Nul n'a besoin de nous, tels des déchets. On veut se débarrasser de nous. » Pour le témoignage du Cameroun, la personne dit la chose suivante. « Lorsqu'une personne est pauvre, elle ne s'exprime pas en public. Elle se sent inférieure. Comme elle n'a pas de nourriture, la famine sévit dans la maison. Si vous ajoutez à cela le manque de vêtements, sa famille ne prospère pas. Les gens pauvres se sentent impuissants et n'arrivent pas à se faire entendre. Au-delà du manque matériel et financier, ce qu'on peut retirer de ces deux définitions qui nous sont données par ces gens, c'est le sentiment qu'il y a derrière. L'humiliation. J'ai aucune valeur. J'existe pas dans le regard des autres. Je ne sers à rien. Donc au-delà d'une pauvreté financière et matérielle, on voit une pauvreté individuelle sur le sentiment de « mais qui je suis, c'est quoi mon identité ?» Mais aussi sur le plan relationnel, « je sers à rien pour les autres ». Un sentiment de honte qui les frappe, l'impression de ne pas avoir d'identité, de ne pas exister, de se sentir, et le mot est fort dans cette définition, comme un déchet, « je sers à rien ». Le passage qu'on a lu, il est commenté par le livre « Vivre en chrétien aujourd'hui, repères éthiques pour tous ». C'est un livre que vous pouvez trouver à la librairie. Et l'auteur de cet article va dire la chose suivante, en parlant de ce contexte. « Les riches abusent des démunis. C'est pourquoi diverses lois en Israël protégeaient le pauvre de certaines humiliations. Le créancier qui avait reçu une couverture en gage pour un prêt devait la rendre le soir même afin de permettre aux pauvres de se protéger correctement du froid. Le lendemain, il pouvait se présenter à la maison du débiteur et récupérer son gage, mais il devait attendre dehors. Il ne pouvait pas pénétrer dans la maison du pauvre et devant sa femme et ses enfants prendre ce bien. La dignité du pauvre ne devait pas être bafouée devant sa famille. » Ce qu'on voit, c'est que pour Dieu, la définition de la pauvreté est bien plus large que celle que nous pouvons avoir. C'est donc au sens large de cette définition que Dieu veut voir son Église, son peuple agir, interagir. On voit ici le souci que Dieu a de protéger la dignité de la personne. Il ne veut pas que la personne ait honte devant sa famille par rapport à celui en qui elle engage. Et c'est de cette dignité de la personne que Dieu veut que son peuple cherche à soigner, à restaurer et à cultiver. C'est dans ce domaine-là que Dieu veut nous challenger. Ensuite, on arrive au deuxième point. c'est que la lutte contre la pauvreté ne passe pas par l'assistanat. Ce passage du Lévitique va démontrer comment lutter efficacement contre la pauvreté de manière globale et dans tous ses aspects. Non seulement on voit dans ces deux versets qu'on a lus qu'il y avait une réponse à la pauvreté matérielle qui était fournie par les propriétaires qui laissaient leurs terres à disposition, mais aussi une réponse à la pauvreté individuelle, ce sentiment d'humiliation, de honte, de n'exister pour personne, incarné par la faible estime de soi de la personne qui était comblée parce qu'elle pouvait aller travailler directement. On voit qu'il y avait une opportunité donnée aux pauvres de pouvoir travailler à leur sortie de ce sentiment de honte, de ce sentiment de manque de valeur, en leur redonnant confiance en eux au travers du travail réalisé, en leur donnant les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Le théologien Kevin DeYoung, qui a écrit un livre sur quelle est la mission de l'Église, il a dit la chose suivante. L'idée géniale derrière le glanage, c'est qu'il ne requiert pas seulement une générosité de la part du propriétaire terrien, mais également un travail de la part du pauvre. Il ne s'agit pas d'une aumône, mais d'une occasion de travailler pour gagner sa subsistance. Et ça vient porter un coup au sentiment d'infériorité que la personne qui est en précarité peut ressentir. Steve Corbett, qui a écrit également un ouvrage qui s'appelle « Quand aider fait du tort », et vraiment j'encourage toutes celles et ceux qui veulent s'impliquer, s'investir auprès de la pauvreté, de lire cet ouvrage « Quand aider fait du tort », il dit la chose suivante, « Réduire la pauvreté matérielle, c'est travailler à restaurer les relations fondatrices des gens afin qu'ils puissent réaliser leur appel de glorifier Dieu en subvenant à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille par le fruit de leur travail. » Dieu veut prendre soin de la personne dans sa globalité. Et c'est la mission qu'il nous appelle à faire. Ceci étant dit, on vient de parler d'assistanat, mais le troisième point dit la chose suivante. La lutte contre la pauvreté doit être une priorité. La lutte contre la pauvreté doit être une priorité. Excusez-moi, je me suis juste embrouillé là sur mon point, mais je voulais vous donner un exemple juste avant d'arriver au troisième point. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il a un problème, il n'arrive pas à régler sa facture d'électricité. On pourrait dire, il a une pauvreté financière, on va payer la facture et on règle le problème. Le souci, c'est peut-être que cette personne, elle a juste un problème à pouvoir garder son travail, à être dans le fait de continuer de travailler. Si son problème, c'est un manque de discipline pour garder son travail, lui donner de l'argent va étouffer les symptômes, mais ne va pas enlever le problème de fond. Et on va maintenir la personne dans ce problème, dans son manque de discipline. Par contre, l'Église pourrait accompagner cette personne et l'aider à voir, découvrir, utiliser les capacités, les dons que Dieu lui a donnés et ses aptitudes pour éviter de perdre à nouveau son emploi et de se retrouver à nouveau dans une situation difficile. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit derrière cette loi du glanage. N'empêche que, et c'est mon troisième point, la lutte contre la pauvreté doit être une priorité pour le peuple de Dieu. Un autre aspect de ces deux versets qu'on a lus, c'est que Dieu montre la responsabilité qu'il confie à son peuple. Le propriétaire terrien devait limiter volontairement ses profits dans un but de justice. Tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Il y a une partie du terrain où la moisson devait être réservée pour le pauvre et l'orphelin, pour l'immigrant. Et pour Dieu, cette partie de la moisson et des produits appartenait aux pauvres. Le théologien Tim Keller, qui a écrit un livre pour vivre une vie juste et généreuse, explique la chose suivante. Si le propriétaire ne limitait pas ses profits et ne donnait pas l'occasion aux pauvres de travailler dans ses champs pour leur propre compte, il ne privait pas les pauvres de charité, mais de justice et de leur dû. Car manquer de générosité, c'est refuser d'admettre que nos biens ne sont pas vraiment à nous, mais à Dieu. La pensée, elle est la suivante. En tant que disciples de Jésus appelés à exercer la générosité, nous sommes invités à planifier une marge dans nos ressources financières pour permettre de soutenir les démunis. Nous sommes invités à ne pas tout dépenser pour nous-mêmes. Il faut penser à ceux qui possèdent le moins et laisser filer un peu de nos richesses, laisser filer un peu de notre monnaie. Et ça peut se traduire de plusieurs manières. On l'a vu, il y a des ONG, des associations qui vont vous être présentées. Ça peut passer par exemple du parrainage d'enfants pour permettre de financer une scolarité à un enfant dans un pays en voie de développement pour qu'il puisse acquérir, apprendre des compétences et pouvoir s'en sortir par lui-même. Ça peut aussi passer par des soutiens de projets de développement, par exemple permettre à ce qu'on apprenne aux gens à utiliser les ressources qu'ils ont dans leur propre pays pour pouvoir les développer et pouvoir s'en sortir. Mais ça peut être aussi un chef d'entreprise parmi nous ce matin qui décide de faire moins de marge, de moins de bénéfices maximum, en baissant peut-être un peu le coût d'achat pour l'acheteur et en augmentant un peu le salaire de ses employés. C'est chercher volontairement à pas faire le profit maximum pour nous, mais en permettant aux autres aussi de pouvoir prospérer et grandir. Et quand on va faire cela, en fait, on reconnaît la grâce et la fidélité de Dieu à notre égard. Et finalement, on participe à l'œuvre de restauration que Dieu veut accomplir. Cette protection des pauvres et des étrangers nous rappelle également que c'est Dieu le véritable propriétaire de la terre, mais aussi de nos vies. Nous, mes amis, nous sommes des intendants, nous sommes des gestionnaires et nous sommes des gardiens. Mais ce n'est pas nous le propriétaire. Tout ce qu'on a, mes amis, c'est la grâce de Dieu. C'est sa fidélité à notre égard. Et on est challengé par Dieu à arriver là-dessus, à arriver dans cet état d'esprit de générosité et d'accompagnement. Maintenant, pour finir, comment pouvons-nous, en tant qu'église locale, laisser un bord de notre champ concrètement aux personnes dans le besoin? C'est mon troisième point, la lutte contre la pauvreté au niveau local. Alors, je vais déjà vous donner les trois principes généraux qui vont nous aider à identifier comment on peut agir. Le premier, c'est le secours. Le secours, c'est une aide d'urgence temporaire qui est offerte pour apaiser une souffrance qui est engendrée soit par la main humaine, les guerres, toutes les situations qu'il y a, les oppressions, les femmes dans certains pays qui sont rendues à de l'esclavage et toutes les choses que je pourrais mettre derrière. C'est aussi des gens victimes d'une catastrophe naturelle, une inondation, un tremblement de terre, un tsunami. Les gens n'ont pas les moyens de faire face sur le moment et là, ils ont besoin d'une aide urgente parce que leur vie est en danger. C'est ce qu'on appelle le secours. À l'EPI, comment ça se concrétise? On a régulièrement des gens qui viennent frapper à notre porte parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas à manger. Puis nous, on n'a pas forcément les moyens de vérifier sur le moment. On ne les connaît pas. Par contre, on estime qu'il y a besoin d'un colis d'urgence sur le moment, parce qu'on ne peut pas examiner la situation. Donc on va leur donner un colis d'urgence. Par contre, ce colis d'urgence, ils ne l'auront qu'une seule fois. Ensuite, on transmet l'identité de ces personnes, s'ils le veulent bien sûr, à Nathalie Sudol, qui est notre responsable du colis alimentaire, qui elle va faire le suivi, l'accompagnement, vérifier les ressources, voir c'est quoi la situation de vie des gens pour pouvoir les accompagner au plus proche de leur réalité. Donc voilà comment ça se passe. Mais c'est aussi, Mathieu l'a rappelé, un groupe de maraudes qui va notamment l'hiver distribuer de la soupe aux SDF, même des couvertures aussi de survie quand il y a des grands froids, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent se rattacher au secours. Là, il y a un besoin et puis on essaye d'aller intervenir. Mais une fois qu'on a passé ce niveau du secours, on arrive dans le niveau qui s'appelle la restauration. La crise, elle est passée. La crise, elle est passée et les gens, on va les accompagner dans une démarche où ils vont être aussi les participants de leur propre rétablissement. Par exemple, la majorité des bénéficiaires de notre colis alimentaire sont des gens qui viennent de l'étranger et il y en a qui ne maîtrisent pas la langue française. On a la grâce d'avoir Erika Alloire, qui est quelque part dans la salle, et Marianne Kiefer, qui donnent de leur temps pour des cours d'initiation à la langue française. Et l'objectif derrière ces cours, c'est de permettre aux gens d'apprendre la langue pour pouvoir entreprendre des démarches administratives, mais aussi de pouvoir chercher du travail. Le but, c'est un accompagnement pour amener les gens à l'autonomie et pas les maintenir dans une dépendance à des personnes. Donc le but, c'est ça. Alors la question, c'est mais comment on fait pour différencier quand il y a besoin de secours ou quand il y a besoin de restauration? Il faut se poser des questions. Est-ce que les gens sont en crise? Par exemple, si là on n'intervient pas, est-ce que c'est vital pour eux? Est-ce qu'ils sont en danger? Est-ce qu'ils sont en danger de mort, par exemple? Est-ce que ça va entraîner de graves conséquences si nous on n'intervient pas? L'autre question, c'est sont-ils en mesure de s'aider? Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont des peurs. On accompagne des gens parfois qui font pas les, ils ont plein de droits, mais ils aiment pas faire les démarches. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des papiers. Il y en a qui ont la phobie des papiers dans la salle, là. Vous savez, là, c'est bientôt la déclaration d'impôt, là. C'est le moment où certains tremblent. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise, mais il y en a d'autres qui tremblent. Mais il y a des gens qui sont dans des peurs paniques. Ils ont droit à des choses, mais ils le font pas parce qu'ils osent pas. Ben, quand c'est comme ça, on va juste les accompagner et les rassurer. Les orienter. Tu peux aller là. Tu peux contacter telle association. Tu peux contacter tel espace, etc. Le but, c'est juste des fois de rassurer et d'orienter pour que les gens puissent se prendre en main et entrer dans leur démarche. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Ensuite, la question c'est, ont-ils déjà reçu une aide d'urgence? Il y a 7 ans en arrière, il y a des gens qui viennent pour le colis alimentaire au bureau. Et puis, ben, voilà, on leur explique la démarche, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte après qu'ils allaient aussi à la banque, ils allaient aussi au Resto du Cœur, aussi là-bas, etc. Puis la voiture qui les avait déposés, c'est une Mercedes que moi, je ne peux pas me payer. Et le téléphone qu'ils avaient en main, bon, celui-là, j'en ai un, mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens aussi qui profitent. Donc il faut aussi aller vérifier. Ça, c'est le rôle justement aussi de Nathalie qui va vérifier un petit peu c'est quoi les aides, de quoi les gens sont-ils bénéficiaires, etc. pour qu'on puisse répondre à un vrai besoin et le rejoindre. Parce que malheureusement, vous savez qu'il y a du business. Il y en a, ils récoltent beaucoup de nourriture et puis après, ils vont revendre derrière, etc. Donc il y a des gens qui sont pas réglo. Mes amis, je suis désolé de vous le dire, mais on ne vit pas dans le monde des bisounours. Et donc, c'est pas parce qu'on a un cœur pour aider les gens que du coup, on pense que tout le monde, il est gentil et tout rose. Il y a besoin de vérification. Et c'est pas d'être dépié, etc. C'est juste de faire un travail et de bien le faire pour accompagner. Parce que ce qui arrive aussi parfois, c'est que des gens qui demandent, il y a des gens qui demandent qui n'ont pas besoin, mais il y a souvent des gens qui ont vraiment besoin et qui n'osent pas demander. C'est pour ça que là, c'est notre responsabilité à tous d'être à l'écoute des situations qui peuvent se passer et de faire remonter des informations au niveau de l'Église pour qu'on puisse rejoindre les gens et les atteindre. Donc ça, c'était un aspect. Et enfin, il y a un troisième niveau, c'est celui du développement des réformes sociales et structurelles. Et ça, c'est ce qui va faire bouger les lignes, pas au niveau de la ville, du quartier, mais plutôt au niveau national, régional, etc. Et c'est là où souvent on va toucher aux limites de l'Église institutionnelle. Quand je parle d'Église institutionnelle, je parle de l'Église locale. Mais c'est là que l'Église organique prend le relais. Et derrière organique, la définition, c'est tous les chrétiens qui, de façon individuelle ou au travers d'agents ou d'ONG, vont chercher à faire une différence pour un pays, pour une région, etc. On a l'exemple du RDC, de Madagascar, du Congo, etc. Il y a toutes sortes d'exemples qui vont vous être présentés dans quelques instants. Mais c'est là où ces gens-là vont prendre le relais. Timothy Keller explique, pour faire bien cette différence entre ce qu'une église locale est capable de faire et jusqu'où après elle transmet le relais, il dira « Les églises devraient exercer l'assistance et un certain ministère de développement parmi leurs membres ainsi que dans leur quartier et cité, ce qui est une façon naturelle et cruciale de révéler au monde le caractère de Dieu et d'aimer les personnes évangélisées et instruites dans les voies du Christ. » Dès que nous attaquons à l'œuvre plus ambitieuse de la réforme sociale et aux structures sociales, nous, chrétiens, devrions passer par des associations plutôt que par l'Église locale. Si l'Église institutionnelle doit porter assistance à l'intérieur et autour de la communauté, c'est l'Église organique, donc chacun d'entre nous, qui doit intervenir dans le processus du développement et des réformes sociales. On va vous afficher une image qui résume ces trois positions dans quelques instants. C'est avec les poissons, si tu les as. Voilà, il y a trois façons d'accompagner les gens. Et j'aime ce dessin qui disait, au lieu de donner un poisson à un affamé, apprends-lui à pêcher en trouvant avec lui sa méthode, avec ses dons et ses talents. Et ensuite, le troisième point, capitalise et partage. Quand on arrive à trouver des stratégies, on peut lancer des choses de développement qui vont pouvoir atteindre un pays, une grande région, etc. Donc voilà un petit peu en résumé, en dessin, ce qu'on pourrait apporter ce matin. Il y a une partie secours. Des fois, il faut vraiment amener du poisson là parce que c'est urgent. Mais ensuite, on va apprendre la personne à pêcher. Et ensuite, on va développer cette stratégie. Et c'est là où les ONG prennent leur place, justement, pour développer tout ça. L'Église va équiper dans la foi des disciples qui vont s'engager dans des domaines divers et variés. Moi, je crois que Dieu appelle des gens à faire de la politique. Je crois que Dieu appelle des gens à servir dans l'art. Je crois que Dieu appelle des gens à servir dans l'humanitaire, dans la culture. Mais ça ne veut pas dire que l'église locale doit être un centre de formation pour tous ces domaines-là. C'est pas possible. Par contre, l'église va transmettre la foi qui va permettre aux gens d'entrer dans l'appel que Dieu a déposé sur leur vie. Vous savez, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens, mais je ne vais pas spoiler le message de Anne la semaine prochaine, puisqu'on reprend notre étude. Mais Dieu a donné les ministères dans l'Église, pasteurs, prophètes, etc., pour l'équipement des croyants en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire faire la différence dans ce monde et dans notre société. Donc il y a un vrai appel qui est là. L'Église va équiper des gens qui vont transformer la société. Mais pas, c'est pas elle qui est appelée à tout faire, déjà parce que c'est pas possible. Déjà, juste prendre des temps pour annoncer la bonne nouvelle de manière contemporaine, actuelle, avec les mots d'aujourd'hui pour rejoindre les gens. Vous avez vu tout ce que ça prend comme nombre de bénévoles juste pour un dimanche matin. C'est impossible pour des bénévoles de donner autant d'énergie ici, de donner autant d'énergie dans une ONG à côté, et puis de donner tout autant d'énergie pour prendre soin de sa famille, aller au travail, etc. C'est pas possible. C'est pour ça que Dieu nous appelle tous. Et il dépose des appels particuliers, certains dans l'église locale, certains dans l'église au large, au loin, au travers d'associations et d'ONG. Mais nous, notre cœur, et Mathieu l'a rappelé, c'est d'encourager ça, de vous encourager à entrer dans ce que Dieu vous appelle à vivre et à faire. Dans quelques instants, vous allez avoir l'occasion de voir un petit peu ce qui se vit, de ce qui se vit de ses porteurs. Certains sont juste des soutiens d'une association, d'autres en sont les responsables. Peu importe, il faut être à la place où Dieu nous appelle et se laisser interpeller par le Saint-Esprit ce matin, qui veut encore nous appeler, qualifier son Église pour répondre à ce besoin de restauration de la dignité humaine au sens global, que ce soit par la prédication de l'Évangile de manière classique, et c'est important parce qu'on croit que c'est la foi qui sauve, mais aussi par des actes concrets. Parce que c'est ça que le monde attend. Pas des gens qui font des belles paroles. Il y en a tous les 2-3 ans au niveau des élections. Voici ce qu'on va faire. Puis une fois qu'ils sont là, voici ce qu'on n'a pas pu faire. C'est exactement la même chose, mais c'est inversé. Non, Dieu nous attend en sérieux dans notre appel. Bien sûr qu'on n'arrivera pas à tout faire, puis il y a des choses où parfois on va échouer. Mais on va essayer. On va essayer de se battre, etc. Notre cœur ce matin, c'est qu'au travers de cette célébration, vous soyez sensibilisés aux besoins qui existent déjà, interpellés par Dieu sur cette cause, cette culture de recherche de vaincre la pauvreté quelque part, mais aussi peut-être de soutenir une œuvre et pourquoi pas vous y investir. Je pense qu'ils sauront recruter. S'il y a des besoins, ils sauront aussi toucher votre cœur avec des exemples. Mais peut-être que ce matin, il y a aussi quelqu'un au milieu de nous où Dieu t'appelle à plus. Peut-être à t'engager, à te lever. Il y a peut-être un appel qui bouillonne pour être un missionnaire, un prédicateur de l'Évangile. Peut-être de t'engager dans l'humanitaire. Si c'est ça, je veux t'encourager ce matin, puis je vais inviter l'équipe à s'approcher, à venir entretenir ça, à t'investir dans ça. Peut-être tu as besoin de temps de formation, de temps d'échange. Profites-en, tu as des gens au stand qui sont passés par là avant toi et qui sauront aussi t'aiguiller, t'orienter pour peut-être répondre à des questions et t'orienter vers les bons organismes qui pourront t'accompagner. Nous, on pourra prier pour vous, l'équipe pastorale. On pourra vous donner 2-3 tips qu'on connaît, mais on ne connaît pas tout. Mais là, il y a des gens compétents qui sont passés par là et qui sauront aussi vous orienter de manière spécifique en fonction de ce qui peut bouillonner sur votre cœur. Dieu vous a donné des dons et des talents. Et on désire vous encourager à vous investir. Je vais vous laisser avec une dernière citation. Il dit « Aujourd'hui, l'aide aux pauvres prend des formes multiples. Alphabétisation, scolarisation, formation professionnelle, soins médicaux, secours lors des catastrophes naturelles, construction de lotissements, projets agricoles, microcrédits, commerce équitable et bien d'autres actions encore. » Avec un peu d'imagination et un grand cœur, bien des choses sont possibles. Est-ce qu'il y a une église qui croit qu'il y a des choses qui sont encore possibles en 2024? Oui, les ténèbres sont en train de s'épaissir. Oui, quand on regarde BFM, CNews et tout, et LCI, il y a moyen d'avoir peur parce que tous les jours, il se passe quelque chose. Mais Dieu n'en a pas fini. Et Dieu, il a levé une armée, pas une armée avec des armes pour détruire, mais une armée pour faire la différence et changer des vies. Et ça commence ici à Strasbourg ce matin dans ce lieu. Ça commence avec des porteurs de projets qui sont déjà en exercice, mais peut-être d'autres où il y a quelque chose qui bouillonne et Dieu te dit « je t'appelle à plus » si on peut commencer à jouer s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie ce matin. Seigneur, je te prie pour notre communauté. Seigneur, on voit le défi et où tu veux nous challenger, Père, à répondre à ce besoin de pauvreté globale. Seigneur, pardon pour les fois où parfois on a juste voulu répondre de manière matérielle, là où il y avait un besoin plus grand. Seigneur, on veut aider en permettant aux gens de pouvoir se reconstruire, oui matériellement, oui financièrement, mais aussi personnellement et relationnellement. Tu vois tous des gens qui sont enfermés dans la honte, dans la culpabilité, dans le sentiment de ne pas sentir de valeur en eux. Seigneur, notre valeur, c'est toi qui l'as déterminée. La chose qui coûtait le plus cher dans ce monde, c'est ta vie offerte à la croix parce que nous avions de la valeur à tes yeux. C'est le prix que tu as payé pour que l'humanité puisse être réconciliée avec toi et entrer dans ce grand projet de restauration que tu veux accomplir, Seigneur. Alors je te prie pour notre église. Je te prie peut-être pour des gens aussi qui se sentent « mais moi je suis pas capable ». Peut-être qu'ils sont là sur leur chaise et dire « oui, c'est pas pour moi ». Le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Le Seigneur n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Et si Dieu a déposé quelque chose sur ton cœur, c'est parce qu'il va te donner les moyens de l'accomplir et de le vivre. Alors ce matin, en tant qu'église, on veut répondre à cet appel. Si c'est notre cœur en tant qu'église ce matin, j'invite tout simplement à nous lever à notre place pour dire oui Seigneur, on veut répondre à cet appel de pauvreté globale. C'est quoi la partie du champ que je dois laisser ce matin? C'est la question que tu nous poses. Seigneur, on veut se lever et répondre à ton appel en tant que communauté, en tant qu'église, mais en tant qu'individualité. Tu peux venir nous avoir challengé sur un aspect ou un autre ce matin. Je te prie que nous puissions être cette église généreuse qui soutient, qui encourage, qui envoie, qui fortifie. Merci Père éternel pour les dons, les talents, les capacités que tu as déposées. Seigneur, que notre église puisse être cette église qui répond à ton appel et qui fait une différence dans ce monde en incarnant tes pieds et tes mains, en étant ta bouche par la proclamation de l'évangile. Seigneur, tu veux te servir de nous. Alors Seigneur, on veut reprendre ce chant qui dit « Je bâtirai ma vie ». Je veux aimer ce que toi tu aimes, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, viens rencontrer encore nos vies ce matin. À toi la louange et la gloire. Que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen.
Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Tous les noms, je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je
on s'unit en prière pour les appels que tu déposes dans les cœurs. On te prie, Seigneur, de continuer ton chemin en nous pour qu'on puisse, Seigneur, bâtir notre vie sur ce qui plaît à ton cœur, à toi. Merci, Seigneur. Merci de nous aider à être cette église locale engagée à notre niveau et au-delà pour les besoins sociaux, de la dignité. Merci, Seigneur, de bénir quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, que cette célébration puisse encore une fois aider à avoir un ancrage, un point de départ. Mais avant tout, Seigneur, c'est saisir ce qu'il y a dans ton cœur. Tu désires que tous les hommes soient sauvés, libérés, restaurés. Et tu envoies ton Église, Seigneur. Aide-nous à être cette Église organique, diaspora, là où tu le désires, là où tu veux apporter ta lumière, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, toi seul est digne. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous avons démarré cette célébration avec trois disciples de Jésus engagés avec le Nid des Enfants au Burkina, avec la mission Braille au niveau mondial, avec l'IDS au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous allons continuer maintenant en écoutant encore trois témoignages de vos frères et vos sœurs engagés dans la mission. Et derrière, on vous présentera notre cœur, notre vision missionnaire avec Anita.
Alors, je suis Didier Rich, j'ai 62 ans et ça fait 5 ans que je suis à l'EPI. En 1999, j'ai créé l'association Espoir, et avec pour but de travailler à Madagascar. Et depuis 2003, nous nous sommes installés dans un village à 170 km de la capitale, dans un petit village au fin fond de la campagne. On était d'ailleurs la première voiture à arriver dans ce village. Et en 20 ans, on a fait d'abord du reboisement. 45 000 arbres ont été plantés au fil des années. Et puis, les besoins étant plutôt dans la scolarité, donc on a créé une école. Après l'école, on a créé un collège, et avec des résultats excellents dans le primaire et dans le secondaire. Et cette année, à la rentrée prochaine, on ouvrira un lycée. Et on a plein de projets. On a notamment un gros projet de visio-formation, c'est-à-dire qu'on va faire des formations en visio à partir de la France, de la capitale. Voilà, c'est une œuvre qui avance. Et parallèlement à ça, il y a une église qui a été fondée et qui fonctionne très bien. Et si vous voulez voir l'œuvre, eh bien, on organise un voyage tous les ans.
Yolande et Klaus Schust.
Alors moi, je suis à l'EPI depuis 52 ans.
Et moi, depuis 42 ans.
Alors, nous avons créé une association Maison LM ici en Alsace depuis 2 ans. Nous avons comme objectif de promouvoir le travail auprès des enfants de rue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en leur apportant une aide alimentaire, une aide médicale, l'aide à l'hygiène, l'alphabétisation. On fait aussi de la formation professionnelle et puis une prévention auprès des familles, une prévention communautaire. Nous avons une maison d'accueil de jour qui actuellement évolue vers un centre d'hébergement.
Notre objectif ici en France, c'est de faire connaître l'œuvre en travers des conférences, en travers des voyages découvertes en Afrique et au travers des formations aussi. Alors si vous avez plus de questions, parce que c'est très succinct, venez nous voir au stand et là on vous donne toute ample information sur tout ce qu'on fait et ce que vous pouvez vous le faire savoir. Au revoir, à tout à l'heure.
Bonjour, je suis Patricia, j'ai 36 ans et je suis à l'EPI depuis toute petite, depuis que j'ai à peu près 8 ans. Je suis membre d'une association qui s'appelle One Love, qui a comme slogan l'amour et la foi, notre carburant. Donc c'est de donner vraiment de l'amour par des actions concrètes. Ça a été créé en 2013 à Paris par un groupe d'amis dont je faisais partie. Donc l'association se trouve actuellement à Kinshasa, donc c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous accueillons des enfants de la rue qui ont entre 8 ans et 15 ans pour leur donner un avenir, pour pouvoir leur permettre d'avoir à peu près un parcours normal, c'est-à-dire une formation scolaire et des activités extrascolaires. On a acheté un terrain à Kasangulu qui est à 1 heure de Kinshasa pour pouvoir à terme avoir des infrastructures sportives, des écoles, et puis pour pouvoir accueillir tout simplement des personnes qui souhaitent se former en agriculture et d'autres projets. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, j'en serais ravie.
Viens, voilà, ça y est. Notre église de l'Épi a toujours eu à cœur le travail missionnaire et a toujours cherché à soutenir d'une façon ou d'une autre, alors que ce soit par la prière ou par des aides financières, des actions, des associations qui se trouvent dans différents pays du monde. Et puis, ben effectivement, comme l'a tout à l'heure évoqué Raymond Pierre, il y a eu des changements législatifs qui nous ont amenés à reconsidérer ce que nous devions faire, et là où ça aurait pu être considéré comme une contrainte, on s'est dit, mais non, c'est une fort belle opportunité, parce que nous allons en fait redéfinir notre projet, notre vision par rapport à la mission. Et en tant qu'église institutionnelle, je reprends exprès le terme de Raymond Pierre, c'est-à-dire en tant qu'association, que pouvons-nous faire? Alors je vais vous présenter cette vision en 4 points. En sachant que notre réponse, avant toute chose, c'est une réponse à l'appel du cœur de Dieu. On peut passer à la slide suivante. Et ce que nous avons entendu du cœur de Dieu en particulier, ce sont des versets qui se trouvent dans Ésaïe 58, qui nous appellent à détacher les liens de la méchanceté, à dénouer les liens de l'esclavage et à renvoyer libres ceux qui sont maltraités. Pour nous, c'est là ce que nous entendons par le travail missionnaire. Et ce que je vous présente, c'est ce que nous avons trouvé comme étant notre réponse. C'est-à-dire que dans une autre église, peut-être qu'il y aurait d'autres types de réponses. Quand je dis nous, notre réponse, de qui je parle, c'est nous en tant qu'association. Et comment avons-nous, en sommes-nous venus à redéfinir cette vision? Eh bien, c'est avec le Conseil d'Église, qui, pour mémoire, est constitué du Conseil d'administration, de l'équipe pastorale et du Conseil spirituel. Répondre à l'appel de Dieu, répondre au cœur de Dieu, en fait, ça se résume en disant « c'est libérer ». Et je vais vous présenter notre vision en 4 points. C'est libérer. En fait, c'est permettre aux personnes d'être promus dans toute leur dignité humaine. Parce que la bonne nouvelle de l'évangile, c'est bien sûr, permet bien sûr de construire la personne, de restaurer sa relation à Dieu, mais évidemment la bonne nouvelle de Jésus, c'est aussi promouvoir l'être humain dans toute sa dignité, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc, La mission pour nous, c'est à la fois un travail de proclamation de l'Évangile et c'est un travail qui va permettre d'intervenir sur tous ces sujets que nous avons déjà présentés, soit à travers l'enseignement de Raymond Pierre, soit à travers les illustrations. C'est donc, j'irais, un double ancrage. C'est à la fois la prédication de l'Évangile, c'est du travail pastoral et c'est à la fois une action sociale pour la dignité humaine. C'est ça, en fait, la raison d'être de la mission pour nous. À partir de ça, nous avons défini des orientations. Parce que, j'allais dire, sur cette même base, on peut faire beaucoup de choses. Et nous ne pouvons pas tout faire. Alors, nous avons défini trois orientations. Celles-ci sont comme des autoroutes qui nous indiquent les directions que nous allons suivre pour pouvoir soutenir les œuvres missionnaires. Et la première, eh bien, c'est travailler avec les autres. C'est travailler en complémentarité. Nous ne sommes pas spécialistes de la mission. Et nous ne savons pas tout faire. Nous ne pouvons pas à la fois appeler, former, enseigner, envoyer dans des pays différents, soutenir. Non, il existe des associations qui sont très bien pour cela, qui le connaissent. Je pense à Jeunesse en Mission, l'action missionnaire des ADD, je pense à la WEC et tant d'autres. Eux, ils connaissent ce type de boulot. Donc, soyons modestes et travaillons en complémentarité avec les uns et les autres. Deuxième orientation, c'est agir selon l'ADN de notre Église. Qu'entendons-nous par l'ADN de notre Église? Eh bien, premier élément, regardons-nous ce matin en considérant tous ceux qui sont en dessous au rez-de-chaussée bas. En fait, nous sommes de toutes les générations. Nous sommes multigénérationnels. Nous avons les jeunes, nous avons les enfants, les petits, les très très jeunes, âgés, etc. En fait, nous sommes intergénérationnels. Et nous sommes une église qui est plutôt familiale. Donc, ça va... Je veux dire, on va être quelque part orienté plus, ça va définir nos priorités, on va être orienté plus vers l'enfant et la famille. Mais nous sommes également une église qui, depuis plusieurs années, des décennies, rassemblons des nationalités différentes, entre 40 et 60 nationalités en moyenne. Donc nous sommes une église cosmopolite, tournée vers les nations, tournée vers les cultures différentes. Donc notre aide sera priorisée aussi vers des actions dans d'autres pays. Et puis, nous sommes également, en termes d'ADN, on l'a bien vu, une église solidaire. On a parlé de l'association en jeu. Bien sûr, avec les évolutions législatives, on va être obligé de bien séparer ce qui est de l'ordre du cultuel et l'ordre du culturel. Mais ce n'est pas grave, au contraire. Mais notre cœur, lui, il est solidaire. Il est très ancré dans la réalité de tous les jours et le culte d'aujourd'hui vient bien le démontrer. C'est ça notre ADN, c'est une église intergénérationnelle, cosmopolite, solidaire et qui soutient l'engagement individuel. Ainsi que ça a été évoqué par Raymond Pierre, en tant qu'église institutionnelle, association, nous sommes là pour équiper chacun d'entre nous et c'est vous qui êtes les relais dans la cité, dans les nations pour agir. Donc, une de nos orientations en respectant l'ADN de l'EPI, c'est dire c'est notre soutien partira aussi à partir notamment des membres de l'EPI. Et puis la troisième orientation, c'est l'avenir. C'est même plus précisément semer pour l'avenir. Pourquoi? Parce que nous savons très bien qu'une action en champ missionnaire ne porte pas tout de suite et immédiatement tous les fruits qu'on aimerait voir. Et nous sommes prêts à dire, eh bien oui, nous pouvons soutenir certaines actions alors que nous n'allons peut-être pas voir tout de suite du résultat. Mais parce que, tel que l'Ecclésiaste nous y encourage, eh bien nous allons jeter notre pain à la surface des eaux parce qu'avec le temps nous le retrouverons. C'est ce que nous voulons faire en disant semer pour l'avenir. Ce sont donc là nos trois orientations. Agir avec les autres, agir selon l'ADN de l'EPI et semer pour l'avenir. Et puis le troisième point porte sur les priorités que je vous ai déjà en fait introduites du fait de la présentation des orientations. Les priorités, ben, elles viennent d'elles-mêmes. Nous partirons de propositions ou d'engagements ou d'actions portées par les membres de l'EPI. Nous viserons à des actions internationales. Nous prioriserons les actions venant en appui aux enfants, aux familles et aux actions qui facilitent, favorisent l'émancipation des personnes telles qu'elles, cela nous a été décrit. C'est-à-dire apprendre à lire, apprendre à travailler, pouvoir se soigner, pouvoir sortir de toute forme d'esclavage, d'asservissement, de rupture de lien, d'addiction, et aussi avoir le droit d'accéder au développement de sa vie spirituelle. Parce que l'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais aussi de toute parole sortant de la bouche de Dieu, et que c'est cela établir complètement la dignité humaine, c'est l'être humain dans toutes ses dimensions. À partir de ça, eh bien, nous avons défini 4 formes de soutien que l'Église peut apporter. Il y a d'abord l'appui spirituel, et il n'est pas neutre. Nous avons parmi nous un groupe missionnaire qui se réunit et qui s'engage à prier. Ils gardent aussi, ils entretiennent des liens avec les personnes que nous soutenons. Et nous pouvons, comme nous l'avons déjà fait, par exemple dans nos temps de jeûne et prière, avoir un temps spécial pour la mission. Donc quand nous allons dire à quelqu'un que nous allons prier pour lui, ça sera pour du vrai. Et puis là-dessus, chacun d'entre nous pourra aussi prendre bien évidemment sa part. Il y a une deuxième forme d'appui que l'Église peut apporter, c'est l'appui en communication. Et nous en avons déjà un bel exemple ce matin à travers la présentation en vidéo de l'engagement de nos frères et sœurs. Les associations qui nous sont présentées ne sont pas soutenues financièrement par l'EPI, mais le fait de les faire connaître, le fait d'avoir des stands dans le hall d'accueil, là où vous pourrez ensuite poursuivre notre célébration en échangeant avec les uns et les autres, c'est une manière de les faire connaître, c'est une manière pour chacun de pouvoir, oui ou non, décider de soutenir ces associations d'une façon ou d'une autre. Et puis, une autre manière de soutenir, c'est l'appui matériel. Alors, celui-ci, en tant qu'association cultuelle, est limité, puisque, je veux dire, nous pouvons éventuellement soutenir via des bibles. Mais nous avons aussi nos relations avec Enjeu. Alors, moi, je ne vais pas vous dire ce qu'Enjeu va soutenir, mais c'est clair que quand nous pensons aussi au soutien matériel, eh bien, nous pensons aussi à notre partenariat, entre autres avec Enjeu, mais ça peut être tout à fait avec d'autres partenaires. N'oubliez pas l'orientation, travailler avec les autres. Et puis, la dernière aide que nous pouvons apporter, c'est l'aide financière. Alors, sachant que, effectivement, en tant qu'association cultuelle, nous ne pouvons soutenir que d'autres associations cultuelles. Mais si déjà nous pouvons faire ça, ça sera déjà très bien. Voici donc les 4 points que nous voulions vous présenter par rapport à la vision de l'EPI, qui est notre réponse au cœur de Dieu. Pour avoir plus d'informations, vous trouverez sur les stands des documents qui présentent cette vision de façon exhaustive. Vous aurez également des documents, comment demander, quelle est la procédure, quelle est la demande, comment on peut formuler par écrit une demande, etc. Voici globalement tout ce que nous voulions vous dire ce matin. Et puis si vous vous sentez interpellé par les illustrations en vidéo qui nous ont été faites, par cette vision, par l'appel lancé par Raymond Pierre, eh bien, nous pourrons aussi nous retrouver tout à l'heure, après le culte, après notre célébration, pour un temps d'écoute et de prière que vous retrouverez tout, donc, ce qui est sur ma gauche et sur votre droite pour vous. Que le Seigneur continue à vous bénir.
Merci beaucoup Anita, on va se lever en église, on va prier, finir ces instants ici, mais la célébration continue dans les stands. Allez visiter nos frères et nos sœurs, il y a aussi tous les NEM, il y a une action NEM qui est faite aussi. Si vous n'aviez pas commandé de NEM et que vous voulez repartir avec un apéritif NEM, là aussi c'est pour Enjeu qui viendra soutenir des soutiens matériels au niveau culturel. Mais on va sceller cette vision missionnaire de l'EPI. Et que Dieu suscite encore et encore au milieu de nous des moyens d'emmener de la dignité humaine directement de la part du cœur de Dieu dans la vie des gens. Amen. Seigneur, merci pour cette célébration de l'espoir. Merci pour cette vision missionnaire que tu as donnée à l'EPI. Je dois en profiter dans ta présence pour remercier le conseil d'administration, le conseil spirituel, l'équipe pastorale, le groupe de prière pour les missionnaires qui se réunit régulièrement, tous les bénévoles de l'église, tous les bénévoles d'enjeux qui se donnent, Seigneur, pour soutenir et aider à rejoindre chaque être humain en besoin. Merci Seigneur pour ton église locale, pour nos frères, nos sœurs, engagés Seigneur, que ce soit en église locale, dans des ONG, des associations. Seigneur, elle est riche ton église de dons, de talents, elle est merveilleuse ton église, elle est bienveillante ton église. Merci parce que ton église, elle est irrésistible Seigneur Jésus. Tu nous envoies, tu nous disperses pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Seigneur, il n'y avait que toi pour penser à un plan aussi magnifique et parfait. Seigneur, merci de bénir maintenant tout ce qui va se vivre au niveau des stands, parce que ce n'est pas anodin. Nous te prions maintenant pour des rendez-vous divins aux stands. Nous te prions, Seigneur, pour que tu touches les cœurs de ceux que tu appelles spécifiquement, que tu bénisses les échanges, que vraiment il y ait une levée de vocation qui puisse naître aussi, de bons conseils qui peuvent naître aussi, qui peuvent être donnés aussi pendant ce temps de célébration aux stands. Merci de bénir aussi l'écoute et prière, toutes les personnes qui vont demander à être entendu, écouté et prié avec eux. On prie d'avance qu'il y ait aussi des rendez-vous divins pendant l'écoute et prière. Bénis l'église de l'Épi, Seigneur. Nous n'avons pas honte d'être cette église qui dit « Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, envoie-nous. Nous voici. Envoie-nous. » À toi toute la gloire. Merci de bénir toutes celles et ceux qui étaient en ligne avec nous aujourd'hui. Que eux aussi puissent être bénis, encouragés, missionnés là où tu les appelles. Amen. Amen. L'écoute et prière, c'est sur ma gauche. Donc si vous avez été interpellé, besoin de prière, vous pouvez vous rendre dans l'allée de gauche. Elle va être libérée par la centaine de personnes qui est là. Et vous pourrez prendre un temps de prière. Bonne fin de célébration au stand.